What do you want?
Information.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette émission 20 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat, de friction et d'acquiescement autour d'une œuvre et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir les séries dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi aujourd'hui Iris Bray de France Culture. Bonjour Iris.
Bonjour.
Marion Litté de Combini. Salut Marion.
Salut Pierre.
Et Olivier Joyard des Inrock. Hello Olivier.
Salut Pierre.
Au menu, un sujet en apparence technique mais profondément philosophique et sociétal, le female gaze, regard féminin de et sur les séries, évolution récente dans un monde encore essentiellement masculin, un anglicisme que nous allons expliquer, analyser à l'aide d'exemples concrets, à commencer par I Love Dick, la nouvelle série de Jill Soloway, la créatrice de Transparent, sur Amazon le 12 mai prochain.
So I hear you guys are moving to Texas?
He's got a residency there.
Okay. Don't let me eat anymore.
I won't.
Okay, let me have one more bite,
no.
And then I won't have any.
No. Oh, come on.
I mean, is it weird that this is not at all what I expected?
You look great. If we didn't have to be somewhere, I would throw you down.
Have you met Dick?
Oh, there he is.
Commençons, si vous le voulez bien, pour parler de la série elle-même, I Love Dick, dont on vient d'entendre la bande-annonce. De quoi parle la série et pourquoi peut-elle nous servir de point de départ pour ce débat sur le female gaze? Iris.
Alors, la série est adaptée d'un texte de Chris Cross qui s'appelle I Love Dick, qui est vraiment un texte théorique, mais aussi un peu autobiographique, d'une femme new-yorkaise qui a épousé un prof de Columbia qui s'appelle Silver Lautringer. Et dans l'adaptation, Jill Soloway finalement s'éloigne un petit peu du livre, puisque c'est pratiquement un livre épistolaire, c'est des lettres que donc cette femme écrit à Dick, qui est un autre professeur. Et dans la série, en gros, Soloway va vraiment se tourner vers la triangulation amoureuse en fait entre elle, son mari et Dick, qu'elle rencontre lorsque le couple va s'installer dans la ville de Marfa au Texas, un espèce d'oasis où les penseurs se retrouvent pour une résidence. Et son mari Silver est là pour penser l'Holocauste et elle est la femme Holocauste puisqu'elle n'a même pas de prénom, mais elle s'appelle bien Chris. Et donc on va voir à travers ses yeux comment la relation à son mari et à son amant imaginaire va évoluer.
Alors c'est le mot clé, c'est à travers ses yeux, hein. Je vais prendre la place du candidat ici, parce que c'est vrai qu'après tout, c'est pas un sujet que je connaissais très bien, mais je me suis documenté évidemment pour cette émission. Mais le but, c'est d'expliquer aux auditeurs un petit peu de quoi il retourne. Du coup, au fond, ça parle quoi, I Love Dick? Ça parle de désir féminin, ça parle de cet objet qui est joué par objet du désir, j'entends, qui est joué par Kevin Bacon dans la série. De quoi ça parle au fond? Et encore une fois, j'en reviens, je répète ma question. Pourquoi finalement c'est légitime d'attaquer sur cette série-là pour parler du female gaze, Marion?
C'est légitime parce que I Love Dick, c'est un exemple, c'est un livre très important dans l'histoire du féminisme américain. Ça date déjà d'il y a 20 ans, mais en fait, elle retourne en fait le sujet, l'objet étant souvent la femme. Cette fois-ci, en fait, l'objet va être l'homme, Dick, qu'elle n'a vu qu'à une seule soirée et sur lequel elle va projeter toutes ses obsessions et tout son désir. Alors que d'habitude, c'est plutôt la femme qui se retrouve dans cette place-là. Et en fait, on voit ça vraiment de son point de vue. Et pour avoir vu le pilote donc signé de Jill Soloway, elle retranscrit ça extrêmement bien. On a vraiment l'impression, pour une fois, on voit ce Dick, on voit le désir féminin à travers les yeux de la femme. On ressent tout ce qu'elle ressent.
Olivier.
Surtout, ouais, en fait, là, ce qui est intelligent dans le pilote et dans le point de vue de Jill Soloway, c'est que ça part pas de zéro, en fait. C'est-à-dire qu'elle explique d'abord ce que c'est que d'être une femme objectisée ou mise de côté. Il y a une scène très importante qui est une scène de repas dans le pilote où Chris, qui est comme Iris a dit, elle n'a pas vraiment de nom. En fait, elle est quand même aussi réalisatrice et elle a un film qui doit aller dans un festival qui finalement n'est pas pris pour une raison complètement compliquée. Et son interlocuteur, Dick, en fait, au bout d'un moment, finit par l'isoler de la conversation sur le propre film qu'elle a réalisé. En gros, c'est pour dire que les femmes n'ont pas produit de l'art intéressant. Et donc, à ce moment-là, la caméra montre le point de vue de Chris sur les deux hommes qui parlent entre eux, comme si elle n'était pas là, quasiment. Et à partir de là, la série s'enclenche. Et c'est là qu'elle commence à écrire des lettres sur Dick et à fantasmer Dick. Et à dire, voilà, c'est moi qui vais prendre le pouvoir et c'est mon regard qu'on va suivre maintenant.
Alors, je vais continuer à faire le candide. Est-ce que des séries, finalement, qui adoptaient un point de vue féminin pour parler de désir et de ces questions-là, il n'y en a pas déjà eu? Est-ce que Sex and the City, c'est pas ça? Est-ce que Girls, plus récemment, c'est pas ça? Est-ce que, pour prendre une française, Vous les femmes, c'est pas ça, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait neuf ou est-ce que c'est juste la concrétisation de quelque chose qu'on a pu trouver par le passé mais qui était fragile, fébrile?
Je pense qu'il faut faire une distinction, en fait. C'est pas juste le désir féminin, c'est une question de regard. C'est-à-dire, est-ce que le regard de la caméra est en train d'objectifier une femme? Il faut quand même revenir, le male gaze, revenons quand même à l'origine du terme. Donc, c'est un terme que Laura Mulvey a inventé en 1975, qui était une théoricienne du cinéma et qui utilise un peu la psychanalyse dans cet essai-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du désir, mais du désir que l'on voit, qui se transmet dans la scène, mais aussi nous, en tant que spectateurs, et le désir du réalisateur qui se trouve derrière la caméra. Donc déjà, il y a une triangulation amoureuse qui se passe entre ces trois regards-là. Et finalement, on a tellement l'habitude que ce soit un regard masculin que là, en ayant un regard féminin, ça change. Mais c'est pas une question de désir. C'est-à-dire que non, il n'y a pas tant de séries que ça qui font ce
film. Est-ce que Sex and the City, elle l'avait, ou est-ce que comme c'était une série faite par des hommes, ça marche pas? Enfin, on va faire.
Mais c'est pas une question de si c'est des hommes ou si c'est des femmes qui sont en train de construire l'objet, que ce soit une femme ou un homme derrière la caméra. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que nous, en tant que spectateurs, on est en train de recevoir, et qu'est-ce que la caméra est en train de transmettre, et comment est-ce que ce désir est transmis? C'est-à-dire que, est-ce que le désir est transmis juste parce qu'on est en train d'objectifier une personne devant nos yeux, ou est-ce que le désir est transmis parce que nous sommes avec la personne qui est en train d'expériencer finalement ce désir-là?
Marion.
Dans le cas de Sex and the City, c'est pas forcément le fait que ce soit écrit par un homme le problème, c'est que en fait le but de ces femmes c'était de trouver l'amour et de consommer un max et de elle a libéré un petit peu la parole sur la sexualité Sex and the City, mais alors c'était pas vraiment un point de vue féminin. Et pour le cas de Girls, c'est un peu plus différent. Là vraiment on rentre quand même dans un point de vue féminin, on rentre dans l'univers de chacune de ces filles qui sont complexes, mais par contre ça le met. La série ne parle pas trop du désir féminin, je trouve, Girls. Elle parle d'autre chose.
Est-ce que... Olivier, je t'en prie.
Je sais plus ce que je voulais dire. Si, je... Non, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très spécifique à Jill Soloway, et que c'est là où elle commence, et qu'elle est extrêmement consciente de ce qu'elle fait d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'elle se place...
Qu'elle revendique ce female gaze.
Voilà, c'est ça. C'est pas du tout... Et c'est ça la grande différence entre le male gaze et le female gaze. Le male gaze, Laura Mulvey dit que ça part de l'inconscient de la société patriarcale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des projections qui sont de sur le cinéma c'est sans
qu'on reproduit quoi. Presque qu'on par reproduit, réflexe
ah mais par réflexe pas presque, c'est-à-dire que c'est même pas c'est pas l'intention forcément d'objectifier les femmes, c'est juste comme ça que ça se passe de manière naturelle. Le male gaze est presque une échappée de l'inconscient collectif quoi. Alors que le female gaze est une construction objective et consciente, et ça c'est quand même une grosse différence entre les deux. C'est en ça que c'est de toute façon pas l'inverse du male gaze, le female gaze, mais on va sans doute
on va creuser ça. Il y a depuis plusieurs années on ne cesse de parler du nombre croissant de personnages féminins avec des guillemets forts qui sont les premiers rôles de série, qui ont souvent des fonctions et des comportements qui ne sont plus stéréotypés. Bref, on a l'impression d'avancer. Est-ce que ces personnages là c'est une solution contre le male gaze dont on a parlé? Est-ce que c'est déjà un premier pas en avant, ou est-ce qu'une héroïne forte, avec les guillemets, peut au contraire desservir la représentation des femmes à l'écran? Je commence à pousser la réflexion un petit peu, Iris.
Bah, en fait, derrière nous est en train d'être diffusé le trailer de Outlander.
Et on va en parler.
Donc, j'attaque sur ça. Bah, c'est justement un exemple de pure male gaze pour moi, avec juste une héroïne. Ce n'est pas parce qu'une série a une héroïne qu'on est dans du female gaze. C'est qu'est-ce qu'on est en train de montrer de cette héroïne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans le pilote et dans l'épisode 2, on a des scènes de viol, on a des scènes où elle est un objet sexuel, on a des scènes où elle est déshabillée pour être nettoyée, et que tout ça est filmé gratuitement pour finalement exciter le spectateur, nous sommes dans du male gaze, ce n'est pas du female gaze.
On va continuer à parler d'Outlander après cet extrait d'Outlander, justement.
Take off your shirt. I want to look at you.
Yes, here. Take off yours as well.
Have you never seen a naked woman before?
Hey. But not one so close. And no one that's mine.
Donc un extrait remonté d'Outlanders, sinon la scène est beaucoup plus longue, donc j'ai coupé pour qu'on les entende parler, où elle dit au début, enlève ton t-shirt, j'ai besoin de te regarder. Alors moi ça, je croyais que c'était un peu ça le film gay, c'est-à-dire qu'on déshabille l'homme et la femme regarde l'homme. Alors après, il fait, maintenant c'est ce qui serait sympa, c'est que tu l'enlèves le tien aussi, comme ça on a un peu égalité. Mais ça au moins, on peut dire que c'est une... Marion, t'avais l'air d'être plutôt...
Ouais, oui, moi j'étais pas... Enfin, je suis d'accord en fait sur le thème du viol dans Outlander, ça a été d'ailleurs assez controversé, les scènes dans Outlander à ce niveau. Sont pas très réussis. En revanche, effectivement, cette scène-là, c'est du female gaze dans le sens où, en fait, on a une héroïne forte, déjà plus âgée que son compagnon sexuel, ce qui arrive assez rarement dans ce sens-là. Et en fait, elle assume complètement sa sexualité et elle va lui faire découvrir qu'on peut faire l'amour de manière différente. Et on voit pas ce genre de scène souvent dans les séries. C'est-à-dire que là, l'homme est en train de découvrir qu'il suffit pas de lui toucher les seins ou de. Enfin, la sexualité est plus complexe que juste les choses qu'on peut voir dans des films porno, par exemple.
C'est vrai qu'Outlander, c'est une série qui était à la fois applaudie pour sa mise en scène de la sexualité et en même temps critiquée. Et je crois notamment que ce qui a été critiqué, c'est qu'il y a effectivement le personnage féminin est violé, mais on n'en fait pas autant que quand le personnage masculin est violé, auquel cas là, on développe beaucoup plus ses souffrances, etc., comme si ça, c'était entre guillemets plus normal que le personnage féminin soit victime de violences sexuelles et que c'était beaucoup plus traumatisant pour le personnage masculin. Je crois que c'est une des choses qu'on a reproché à cette série. J'en reviens à ce que disais tout à l'heure. Finalement, comment savoir à quel moment... Je sais que female gay, c'est pas un tampon qu'on met sur une série en disant « Ok, tu as le female gay, boum, je te mets un tampon », mais comment savoir... Bon, par exemple, Outlander, c'est un homme qui l'a showrun, c'est Ronald Moore qui faisait aussi Battlestar Galactica. Comment on peut savoir qu'une scène, si on me dit pas qui l'a fait, qui l'a écrite, de quelle série il s'agit, et comment je peux savoir que c'est effectivement quelque chose qui est dans le cadre du female gaze, ou est-ce qu'il y a un non-female gaze ou un faux female gaze qui viendrait s'appliquer?
Il faut juste analyser une image, en fait.
Mais je t'en prie, alors explique-moi.
C'est simple, quand on analyse une image, quand on analyse comment les corps sont filmés. Est-ce que le corps est en train d'être filmé parce qu'il est en... Bon, on va prendre un exemple plus concret. Prenons Game of Thrones, le premier viol de Daenerys. Ce rapport sexuel-là, il est...
Avec Khal Drogo.
Avec Khal. Donc, comment est-ce que ce rapport est filmé? Pierre, est-ce que tu t'en souviens?
Je crois qu'on la voit de face et lui est derrière elle, c'est ça, hein?
Voilà. Ouais. Et donc, la scène, pour toi, c'est une scène qui est montrée comme étant traumatisante, excitante.
Ah oui, mais alors là, si tu me demandes de faire ce genre de jugement-là, a priori, c'est un viol, donc c'est pas censé être excitant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit le corps de la femme au premier plan.
Mais pourtant, ça l'est. Ouais. Et bien là, donc, c'est problématique. C'est-à-dire que toi, en tant que spectateur qui sait analyser une image, tu peux te dire que le fait de montrer un viol comme étant un moment érotique, ou en tout cas, c'est-à-dire que le spectateur est censé le vivre comme ça, c'est problématique. Donc, il faut d'abord se poser la question du regard. Comment est-ce que la caméra est positionnée et à travers qui est-ce qu'on regarde? Dans Mad Men, quand Jones se fait violer, on est dans le regard de Jones, c'est-à-dire qu'on voit la moquette. On voit pas elle qui est en train de se faire pénétrer. On voit son visage contre le sol pendant que son mari la pénètre.
J'ai l'impression aussi que c'est pas la seule question. C'est une question importante, la question figurative au moment du viol, mais c'est aussi le traitement scénaristique de cette question-là, qui, par exemple, typiquement, la série Female Gaze, là, sur cette question, c'est Jessica Jones, pour moi, qui est showrunnée par Melissa Rosenberg, qui est donc une femme, et qui montre, qui même constitue le personnage, pas uniquement à travers le viol qu'elle a subi, mais qui met en scène son trauma, ce qui est un peu différent quand même. Et pour moi, c'est vraiment la grande force de cette série-là. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de séries. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée, en fait, que le viol serait un instrument de rebondissement presque comme un autre, quoi. Comme si, alors qu'en réalité, ça doit être absolument le sujet, en fait, si on le traite.
Et si j'ai bien compris, et pour en revenir, on va en parler plus du viol après, parce qu'on va justement reparler de Game of Thrones. Il peut y avoir aussi un faux female gaze, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'il y aurait des scènes qui nous montreraient ce que les femmes sont censées aimer, mais qui justement ne seraient pas justes. C'est-à-dire, ça serait un regard qui se veut juste, mais qui est en fait un fantasme de ce qu'on projette sur les personnages féminins.
Et donc, ce serait un male gaze et pas un female gaze.
Un faux, oui, c'est pour ça.
Il n'y a pas de faux.
Ouais. C'est compliqué, je trouve, quand même. Non, mais
c'est juste qu'il faut comprendre, en fait, que le female gaze n'est pas l'inverse du male gaze, en fait. Le male gaze, c'est vraiment des scènes, des films, c'est aussi, dans toute la culture hollywoodienne, dans tout l'entertainment, qui objectifie la femme.
Le fameux plan qui part des pieds pour aller jusqu'au sein.
C'est exactement ce genre de... Et d'ailleurs, la série Mad Men, encore une fois, le montre très bien à travers le regard. On voit le regard des hommes sur les femmes dans les premières saisons. Et en fait, c'est ça, le male gaze, en fait, c'est montrer aussi que la femme est tout le temps observée par ses hommes, jugée d'une certaine manière, jugée sur son corps, alors que le female gaze est une réponse, mais une réponse révolutionnaire. Le but n'est pas de faire des séries sur des Chippendales pour exciter les femmes, en fait. Le female gaze, l'idée, c'est de laisser s'exprimer les désirs de chaque point de vue. Et dans ce sens-là, pour les hommes, c'est très bien aussi. Ils vont apprendre à mieux connaître les femmes. Et aussi, eux, on va les montrer dans toute leur sensibilité et toute leur complexité.
Voilà ce que j'allais dire aussi, parce que j'ai fait quelques recherches quand même pour me préparer, que le male gaze peut faire du mal aussi aux hommes. C'est-à-dire bien que, sûr. En fait, c'est...
Moi, je ne me sens pas du tout représenté par le male gaze. Et je pense que j'en souffre pas autant que les femmes. Mais je suis... je comprends pas en fait de quoi il s'agit vraiment. Enfin, je le vois et sans doute que j'ai pris du plaisir à regarder du male gaze parce que quand même je vois des films et des séries depuis quelques années maintenant. Mais je me sens pas. C'est pas une idée des femmes ni du désir des hommes d'ailleurs qui m'intéresse. Et donc c'est vrai que ce dit Marion, c'est assez juste.
Pareil, c'est dicté aux hommes. Voilà ce qu'il faut que vous aimiez. Vous devez aimer les gros seins, les fesses et vous devez faire ça. Enfin, du coup, c'est hyper réducteur aussi du désir masculin pour les femmes.
Iris.
Parce que finalement, c'est ça. C'est accepter qu'il y a une multiplicité dans les sexualités et dans les désirs. Et donc, c'est de partir d'une norme qui ferait qu'on est censé aimer qu'un seul type de corps de femme ou un seul type de corps masculin et d'aller vers une pluralité. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse puisqu'à partir du moment où on ouvre ses portes, eh ben, on est tous un petit peu chamboulé puisqu'on ne sait plus ce qu'on est censé aimer. Donc ça nous force aussi à savoir ce qu'on regarde et à savoir comment on le regarde et qu'est-ce qui provoque le désir.
Take off your clothes. Oh no, no, no. You stay here, Rick. You watch. Do I need to ask a second time? I hate asking a second time.
La scène de Game of Thrones où Sansa se fait violer par Ramsay Bolton, une séquence qui a fait couler énormément d'encre et qui soulève un aspect dont on a commencé à parler, c'est-à-dire la mise en scène du viol. Ça, pour le coup, ça a été vraiment parce que la caméra, littéralement, c'est le personnage qu'on voit le plus, c'est celui qui regarde. C'est Rick, comme il l'appelle, qui est donc coincé à l'autre bout de la pièce et qui regarde ce viol. C'est pour ça que cette scène a été très violemment attaquée. Alors, Game of Thrones, qui avait déjà quelques problèmes avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je crois savoir qu'ils ont essayé de se rattraper un petit peu par la suite et qu'ils ont légèrement redressé le tir, mais cette scène-là...
Ils ont laissé la place à des femmes, les showrunners, par exemple ou...
Alors ça, non, je crois pas.
C'était une blague, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une prise de conscience forcément très...
Sur l'écran derrière nous, on voit cette scène où justement, c'est Daenerys qui dit...
c'est l'enfer.
C'était avant,
et qui lui dit, enlève-toi, déshabille-toi, enfin voilà, où on est dans un point de vue un peu différent. Mais...
Justement, cette inversion n'est pas du film male gaze.
Ça suffit pas.
Mais c'est même pas que ça ne suffit pas, c'est que c'est vraiment, en fait, le degré zéro de la réflexion.
C'est-à-dire que... Il y a trop de femmes à poil, on met plus de mecs à poil, quoi, finalement.
C'est-à-dire que
on pourrait commencer par là aussi, mais c'est pas forcément le.
Oui,
but,
mais non. Par exemple, quelqu'un qui le fait intelligemment, c'est Jenji Cohen, et quand elle montre une paire
donc
de couilles.
Weeds ou.
Eh ben non, je suis désolée, mais bon, quand on voit une paire de couilles du garde qui sort, et c'est pas sexuel, et c'est juste, ça fait partie de ce qui se passe à ce moment-là dans la scène. Là, oui, c'est intéressant, mais de montrer Daenerys qui objectifie un mec parce que ça l'a fait kiffer de le foutre à poil, pourquoi pas? Mais c'est pas ça le female gaze. Là, on est juste dans du male gaze inversé.
Et pour en revenir au viol, c'était juste la 50e fois aussi qu'une femme se faisait violer dans Game of Thrones et qu'il n'y a pas vraiment, on voit pas les conséquences beaucoup sur Sansa dans les épisodes suivants. Donc là, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je trouve ça très bien qu'il y ait une grosse controverse et qu'on ait pu parler de ça. Après, malheureusement, tout le monde n'a pas compris. L'actrice en premier lieu n'a pas forcément bien compris. J'ai vu des interviews où en fait, elle avait pas compris pourquoi en fait cette scène elle faisait vraiment controverse.
C'est aussi parce que il y a une éducation à faire, une éducation du regard, une éducation de, enfin voilà.
Oui.
Un autre anglicisme, à moins que oui, c'est bon, enfin, ça peut marcher en français aussi. La sexposition. J'ai pris mon petit. Vous ne connaissez pas ce mot-là. Moi, j'ai vu ça, sexposition.
Il y a voilà. Une série HBO avec des
oui,
seins et tout
ben,
ça.
C'est ça en fait. C'est de mettre de la surexposition sexuelle. Non, il ne s'agit pas de position sexuelle. Je vous rassure tout de suite.
Ça serait peut-être plus intéressant même de parler de ça, parce que en fait, des séries qui montreraient d'autres positions sexuelles, ce serait aussi pouvoir sortir du male gaze. Et d'ailleurs, Fleabag, dont on a pas encore parlé ce soir, mais est une vraie, pour moi, série qui revendique un female gaze dans la manière dont elle aborde le désir féminin et ce que l'héroïne Fleabag en fait.
C'est-à-dire, puisque tu l'as gardé la parole.
J'en ai parlé donc avec Phoebe Waller-Bridge, qui est donc la créatrice de la série, mais qui interprète le rôle principal de Fleabag, donc sa capuce, qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas conscience qu'elle était en train de faire un female gaze, mais qu'elle avait écrit la série que pour sa meilleure amie, qu'elle l'avait mis en scène que pour sa meilleure amie, et qu'en fait, dans cette écriture, finalement, qui n'était qu'une écriture entre deux femmes, elle s'était rendue compte qu'elle avait voulu raconter tout simplement un point de vue féminin sur le monde. Et que pour elle, c'était ça, le female gaze. Et donc, dans ce point de vue-là, eh bien, le désir de l'héroïne, c'est pas un désir qui est facile à assumer, c'est une sexualité qui se cherche, c'est des actes sexuels qui sont pas du tout excitants pour la personne qui les regarde, c'est plutôt même très drôle, mais c'est une manière aussi juste de nous faire réfléchir à comment les corps sont filmés et comment est-ce qu'un corps est mis en scène, finalement, pour nous faire réfléchir.
Est-ce qu'aujourd'hui, le female gaze, ça doit être quelque chose d'un effort, entre guillemets, ça n'a pas été le cas visiblement sur Fleabag, mais c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de conscient, est-ce que peut-être le but que pour qu'un jour ça soit, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question, aujourd'hui, ça doit être une démarche. Pour Jill Soloway, j'ai l'impression que c'est une forme de démarche militante. Est-ce qu'on en est encore à ce stade-là du female gaze, c'est-à-dire comme ça quelque chose de neuf, il faut que ça soit une démarche, qu'on dise ok, je vais faire une série et je vais faire attention à faire ça pour que peut-être dans 2-3 générations, espérons moins longtemps, mais Olivier.
Non, je sais pas, faire attention, c'est toujours un problème parce que ça voudrait dire qu'il y a une norme et quelque chose. Là, c'est vraiment, il s'agit de changer de paradigme quasiment. Donc, pour moi, le fait de, comment dire, ça concerne pas seulement les créatrices ou les créateurs, ça concerne aussi les chaînes qui devraient faire travailler beaucoup plus de femmes créatrices en France.
Donc, c'est aussi une question industrielle.
Évidemment, oui, et politique, enfin, de comment quelle représentation on veut donner de la société dans laquelle on vit, du monde de, voilà, c'est, il y a quand même, enfin, pour moi, c'est un versant qu'on n'a pas trop abordé, mais dans Transparent, par exemple, il y a des personnes trans qui écrivent la série, dans l'équipe technique. Il y a tout un système, en fait, derrière ça, qui est de mettre en avant des voix qui sont souvent réduites au silence, plutôt. Et du coup, j'ai l'impression que si on veut parler de female gaze, on doit parler d'une politique aussi générale de... Je ne sais pas si c'est de la discrimination positive. En tous les cas, c'est un autre regard porté sur la fiction qu'on fabrique. Quoi.
Après, il y a aussi des showrunners intelligents qui l'ont fait sans le savoir. Moi, je pense à Joss Whedon avec Buffy. Voilà, c'est le point de vue d'une femme qu'on suit sur cette saison. On voit aussi la diversité de sa sexualité, comment elle l'assume pas en saison 6. On voit aussi différentes sexualités à travers le couple de Willow et Tara. Donc en fait, c'est quelque chose d'inconscient si on a affaire à des showrunners et des showrunneuses entre parenthèses, voilà, intelligents et conscients du monde dans lequel ils vivent.
Ou d'ailleurs pas entre parenthèses, intelligents.
Oui, mais en fait, c'est vrai que ça fait depuis le début de l'industrie hollywoodienne qu'on se tape du male gaze. Donc quelque part, je comprends aussi la démarche de Jill Soloway qui tape du poing sur la table en disant bon, maintenant, faut faire la révolution, sinon on va encore attendre 60 ans avant d'avoir enfin des fictions qui représentent aussi bien les points de vue féminins et masculins.
Elle dit, par exemple, que pour blaguer, mais pas pour blaguer tant que ça, mais elle blague quand même, c'est qu'il faudrait, pour que le male gaze s'arrête, que ce soit plus que des femmes qui réalisent pendant 100 ans pour voir ce que ça fait, en fait. Voilà.
Un mot, tu as commencé à en parler, Iris, des LGBTQ. Elles et ils sont concernés par le female gaze, où il existe un gay gaze, un lesbian gaze, un trans gaze. C'est-à-dire, est-ce que ça peut se développer en autant d'identité et de sexualité qu'il y a d'êtres humains?
Je pense que c'est une question un peu compliquée, parce que je pense que le female gaze, justement, n'a pas envie de faire des petits compartiments.
Oui.
Des petits compartiments. Et je pense que justement, en essayant de représenter une multiplicité, c'est justement quelque part pour moi une vision très queer. Donc c'est une vision fluide. Et je pense que dans Transparente, il y a en tout cas un désir et un besoin de pouvoir représenter ce qu'un personnage trans vit et comment Maura vit son désir. Mais je sais pas si il faut forcément démultiplier ce terme. On est juste en train de d'esquisser ce que ça pourrait être. Donc
ça se sent dans ce débat. D'ailleurs, on cherche encore exactement comment définir la chose.
Changer le nom en fait. Peut-être que female gaze c'est encore trop référencé en fait. Ça dépend trop encore d'un concept qui certes est un concept inventé par une féministe, mais qui malgré tout décrit une réalité masculine.
Je suis désolée, mais male gaze, vous aviez entendu ce terme, ça existe depuis 75.
Je l'avais pas entendu,
voilà. C'est créé il y a 40 ans, mais personne n'en parlait. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est pas nouveau, ça a été créé en 75, le terme de male gaze, mais en fait, on commence à s'y intéresser maintenant.
J'ai pas d'option pour l'instant.
Une dernière question, parce qu'elle nous concerne, à l'Association française des critiques de séries, qui organise ce podcast. Est-ce que la question se pose aussi pour ceux qui écrivent sur les séries? Et c'est-à-dire que, est-ce que, mesdames, mesdemoiselles, je vous laisse la liberté de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il faut aussi un female gaze critique? Et c'est-à-dire aussi qu'il y a un regard différent qui peut être porté, par les journalistes femmes, que par les journalistes hommes. Est-ce que peut-être, moi, j'ai eu des discussions très intéressantes sur Girls et sur la différence de mon regard en tant que téléspectateur homme par rapport à un téléspectateur femme. Il y a une nécessité qu'il y ait aussi un regard féminin qui soit porté sur les séries en tant que critique.
Je pense que oui, il y a une nécessité qu'il y ait des femmes qui écrivent, mais on voit très bien par exemple que Olivier est totalement capable de le faire, il le fait déjà dans ses critiques, donc c'est pas finalement le sexe biologique qui détermine notre plume. Je pense que c'est d'avoir en tête finalement qu'est-ce que c'est que le genre et de réfléchir aux séries qu'on voit à travers le prisme du genre et de comment est-ce que la caméra filme des hommes et des femmes et des corps féminins ou masculins ou en transition. Je pense que c'est des questions qu'il faut tous qu'on se pose. Après, on n'est pas tous obligés d'écrire là-dessus ou d'avoir ce point de vue-là pour apprécier une série. Mais je pense que voilà, des séries de Jill Soloway vont peut-être toucher des personnes qui sont plus dans ces problématiques-là ou en tout cas qui sont plus animées par ces questionnements-là. There is stuff happening out there. People are just getting away with awful things and no one is doing anything about it. They said I didn't have a case. His job is to scout the bar, select and slip. It's awful. I know how to do things most people don't. So what do we do next? Well, there is no we. I work alone. We're doing this for different reasons. That doesn't mean there aren't people out there who need our help. You want to be my Robin? And it wouldn't be Robin. Robin's a bitch. Think fast. Not so funny now, is it? Have a good season. Leave this alone, Ophelia. She's dangerous and stupid. Police don't know they're looking for a girl. Just keep going. We are two sweet girls who are just as scared of the attacker who's running loose. Let's get him. Un petit extrait de Sweet Vicious, une série dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi intéressante dans ce débat-là, sur deux jeunes universitaires qui mettent des corrections aux hommes, aux jeunes hommes qui violent et qui font des attaques sexuelles sur le campus où elles sont étudiantes. Mais on va laisser désormais la parole au public d'un épisode et j'arrête. Vous voulez parler d'une série qui vous semble appliquer le female gaze, d'une autre au male gaze agressif. Vous avez un avis militant ou politiquement incorrect sur la question. N'hésitez pas, nous vous écoutons. Bonsoir.
Bonsoir. Je voulais replonger du coup sur la question du female gaze, réinsister un petit peu sur ce qu'essayait de dire Iris Bray sur le fait que le female gaze n'est pas l'opposition du male gaze. J'en veux pour principe, par exemple, la série The Affair, qui oppose très très bien justement le male gaze et le female gaze, puisque on a plusieurs scènes qui se répètent où le même événement est vu selon le point de vue masculin ou le point de vue féminin, et là, soudainement, on se rend compte qu'effectivement, la femme n'a pas du tout le même rapport au désir et aux événements qui ont eu lieu. Et ce qui me paraît plutôt révolutionnaire, du coup, sur l'avènement du female gaze, c'est justement cette question de l'objet masculin, du regard d'objet féminin qui va soudainement un peu disparaître. Les séries vraiment révolutionnaires sur le female gaze vont faire disparaître l'objet du regard masculin ou le rendre extrêmement secondaire. Par exemple, on n'a pas parlé de la série Girlfriend Experience où une jeune femme finalement comprendre son female gaze, c'est comprendre que ce qui est essentiel, c'est son désir, enfin, le désir désiré, peu importe l'objet du désir, entre guillemets, l'objet masculin va disparaître aussi, les clients sont on ne peut plus insignifiant puisque c'est une cowgirl de luxe, il ne lui sert finalement qu'à exprimer son désir. Et l'autre chose qui me paraît aussi intéressante, c'est le reconfigurer le female gaze selon une configuration qui n'est pas sexualisée ou sexualisante. Et par exemple, on a la série Broad City où c'est aussi female gaze croisé entre deux femmes qui sont amies et qui se regardent aussi entre elles ou peuvent regarder d'autres hommes qui peuvent être finalement assez insignifiants, mais ça peut être aussi un regard qui n'est pas porté aussi sur le désir. Et troisième chose qui me paraît aussi intéressante sur la question du female gaze, c'est le fait que soit l'objet du regard du coup ne soit pas masculin, ou soit l'objet du regard n'existe pas, par exemple, ou ça peut être l'amitié féminine ou autre. Ce qui me paraît révolutionnaire dans le female gaze, c'est proposer du coup un objet du regard qui peut être aussi queer, comme du coup on l'a peu abordé. Et une femme peut aussi regarder autre chose qu'un homme, donc peut regarder une autre femme, ou peut regarder différemment que selon le regard hétéronormé. Et là, le meilleur exemple reste quand même Orange the New Black, dont on n'a pas parlé, où justement
on a glissé un peu de Jenji Cohen, et on a parlé un petit peu d'un certain plan sur certaines parties, je crois, du corps de l'homme.
Et ce qui me paraît intéressant, du coup, c'est justement de mettre en avant que le female gaze, justement, n'est pas standardisé. Et avec Orange is the New Black, on a tout ce qu'il y a de plus multiculturel possible en termes de représentation féminine, des regards féminins extrêmement différents, des hétéros, des bi, des lesbiennes pures et dures, et surtout des regards très différents, pas forcément blancs, donc beaucoup quand même de races assez différentes. Et ça permet de montrer que le female gaze reste encore extrêmement à inventer, puisqu'il est extrêmement divers. C'est non standardisé.
Alors d'abord, bravo, vous connaissez bien le sujet, vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez bien fait de descendre pour prendre la parole. Est-ce qu'il y en a parmi autour de la table qui veut rebondir rapidement sur cette intervention, Iris?
Alors, il y a plein de choses très intéressantes dans ce que vous dites. Ce qui, en fait, dans cette traduction du female gaze, quand on reprend le texte de Laura Mulvey, elle parle beaucoup de scopophilie, donc c'est-à-dire un terme qui a été inventé par Freud, hein, qui est le plaisir qu'on a à regarder. Et donc, je pense qu'en fait, à partir du moment où on retire la notion de plaisir, on s'éloigne un peu finalement de cette notion de female gaze dans l'état actuel de comment on pense le terme, pour finalement se diriger plus vers qu'est-ce que c'est qu'un regard féminin plus généraliste. Mais je pense que on est au balbutiement, puisqu'en fait, on n'a pas de texte théorique qui existe, ni en anglais ni en français, pour comme grille de lecture. Donc je pense que on est tous en train de chercher encore un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce soit les objets et que ce soit les séries en fait qui soient en train d'inventer une nouvelle forme d'expression. Et Mulvey, voilà, et se basait sur des objets, enfin le cinéma qui existait et des films qui existaient. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'existence de séries finalement nous font progresser de manière théorique, mais aussi dans notre regard de spectateur, je pense.
Et on termine là-dessus cet épisode 20 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries ACS, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle la diffusion de I Love Dick sur Amazon Prime en France à partir du 12 mai. Merci à Iris Bray de France Culture, Marion Litté de Binge et Olivier Joyard des Un Rock. Merci aussi à Jules Cros, comme toujours à la technique, aux équipes de Binge Audio et au public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. La CS est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, où vous trouverez aussi les comptes de Un épisode et j'arrête. Followez-nous, commentez, réagissez, faites tourner, ça nous fera plaisir. Dans le prochain épisode, nous parlons de quoi? Eh bien, je ne sais pas de quoi nous parlerons, puisqu'Un épisode et j'arrête s'enregistre une fois par mois et que le prochain numéro sera mis en boîte dans un mois. Nous espérons vous y croiser, c'est gratuit, il y a de la place pour tout le monde. Salut à toutes, salut à tous, et à la prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.